Radio Capi, grand témoin. Toujours avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Florentin Mokonda Bonzanzombo, sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens. Honorable Florentin Mokonda Bonzanzombo, je prononce bien votre nom, j'espère.
Oui.
Soyez les bienvenus à Radio Capi.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Au cours de notre entretien avec vous, honorable, nous parlerons de votre parcours politique, mais aussi de votre expérience dans le domaine économique. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord chercher à savoir qui est Florentin Mokonda Bonzanzombo, c'est ça. Vous êtes né le 4 avril 1948 à Bouta, dans la province orientale. Vous êtes originaire de la province?
Exact.
Vous faites des études économiques, des humanités économiques, j'allais dire, oui. Toujours dans la même province.
Oui.
À cette époque, c'était au Zaïre.
Non, j'ai commencé d'abord dans la province orientale, hein, et puis finalement, c'est au Zaïre. Au Zaïre, c'est quand j'étais déjà à l'université. Mais aux humanités, c'était encore la province orientale.
Et pourquoi avoir opté pour les humanités économiques?
Mais pour la simple raison qu'à l'école où je me trouvais, à Bouta, partie de 58, les Belges avaient introduit le programme métropolitain, qui était le programme belge qu'ils ont introduit au Congo. À ce moment-là, c'était donc les humanités modernes économiques, comme en Belgique. Et c'était l'unique section qui était organisée à mon école, l'Institut Marie Médiatrice.
Donc, ce n'était pas un choix personnel?
Non, quand je commence les humanités en 1960, il n'y avait qu'une seule section et c'était les humanités modernes et économiques. Et voilà comment je me suis retrouvé là et puis finalement j'ai continué dans la filière.
Et puis, c'est à l'Université libre de Kisangani que vous obtenez un certificat de jury universitaire.
Exactement, parce qu'en 1968, à Bouta, je suis porteur d'un diplôme des humanités, mais ce diplôme n'était pas homologué. Et donc, dans l'ancien temps, pour aller à l'université, il fallait avoir un diplôme homologué. Et j'avais deux possibilités, soit d'aller dans une année préparatoire à l'université, dans un centre préuniversitaire, ou soit de me présenter devant un jury universitaire. Alors, j'avais opté pour un jury universitaire.
Et pourquoi?
J'estimais que c'était le chemin le plus court au lieu d'aller passer une année au centre préuniversitaire. Mmh. Ce n'était pas facile, mais après 15 jours d'examen, j'étais parmi ceux qui avaient été retenus. Et c'est comme ça que j'ai obtenu un certificat de jury universitaire qui me donnait l'accès donc à l'université.
Ah, donc il est différent du diplôme universitaire?
Il est différent. C'est un certificat. En fait, c'est un diplôme qui permettait aux récipiendaires d'un diplôme d'humanité non homologué de pouvoir accéder à l'université.
Vous poursuivez vos études au campus universitaire de Kinshasa. C'était pour compléter la formation que vous aviez déjà?
Non, c'est tout simplement parce que à Kisangani, à l'Université libre du Congo, j'ai commencé mes études en 70 et en 71. Et bon, le gouvernement, le bureau politique à l'époque a décidé de pouvoir nationaliser les universités. Et à Kisangani, c'était une université protestante. Tout comme à Kinshasa, c'était une université catholique. Les facultés ont été regroupées. Et la faculté des sciences économiques, d'après les autorités, elle a été, elle devait être installée à Kinshasa. Et tous les étudiants de faculté des sciences économiques de Lubumbashi, de Kisangani et de Kinshasa devaient donc venir à Kinshasa. Et c'est comme ça que je me retrouve à Kinshasa fin 71 pour poursuivre mes études universitaires que j'ai terminerai en 74.
Parlons de votre enfance, honorable. Dites-nous, comment vous avez grandi, dans quelles conditions?
Bon, j'ai connu une vie tout à fait modeste parce que mes parents ne savaient ni lire ni écrire. J'ai vécu au village d'abord pendant mes 5 premières années. Et quand mon père n'avait pas eu la possibilité d'aller à l'école lui-même, s'étant rendu compte que j'allais avoir 6 ans, il a décidé de quitter le village, de venir s'installer à Bouta, de trouver du travail pour m'envoyer à l'école. Et le premier travail qu'il a trouvé, c'était celui des domestiques chez le prêtre. Et en tant que domestique chez le prêtre, il m'a inscrit à l'école primaire. Et de là, il a travaillé un peu à la régie des eaux. Et puis, il a travaillé au service de l'hygiène jusqu'à la rébellion de 1964. Donc, j'ai vécu tout à fait modestement. J'étais un enfant bien, qui écoutait ses parents, qui avait beaucoup d'amis, qui avait un peu d'autorité parce qu'il avait beaucoup d'amis autour de lui, qui étudiait bien et qui est passé dans pratiquement tous les mouvements de jeunesse, le scoutisme, la Croix-Rouge, la fanfare, j'étais enfant des chœurs et j'ai pratiquement tout fait dans ma jeunesse.
Vous étiez actif, hein?
Très, 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 très actif. En tout cas, j'ai joué au football, au basketball, au volleyball. J'étais un bon athlète. Je faisais du saut en longueur, mais beaucoup plus du saut en hauteur. Et j'étais membre de la fanfare. J'ai joué au bugle, j'ai joué au baryton. J'étais donc un enfant qui bougeait beaucoup.
Combien de médailles vous avez reçues?
Malheureusement, pas une seule médaille.
Ça se passait,
oui, ça se passait
entre vous, entre amis.
Voilà, et des championnats scolaires, et parfois des compétitions avec l'armée, à l'occasion du 17 novembre, à l'époque c'était la fête de l'armée. Alors les écoliers allaient faire des compétitions avec les militaires. Et moi, je prenais surtout part au saut en hauteur.
Quel bon souvenir vous gardez de votre enfance, honorable?
Je crois que beaucoup de bons souvenirs parce que j'ai eu une très très bonne enfance. Les parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais je n'ai jamais eu de problème pour étudier. Je crois qu'on ne peut pas être malheureux pour avoir eu un enseignement de qualité comme celui-là.
Laurent Mokonda, vous êtes marié?
Oui, je suis marié et père de 10 enfants.
Quel est votre plat préféré?
Je suis de la province orientale, j'aime bien manger les litoumas. Les litoumas au poisson, les litoumas à la viande. Mais maintenant, compte tenu de l'âge, je préfère beaucoup plus de poisson que de la viande.
Vous cuisinez aussi?
Alors ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Parce que dans mon ethnie, chez les Baboua, par exemple, un garçon devait nécessairement être à côté de son père. Et chaque fois que j'allais à la cuisine, ma mère me chassait. Et donc, ça fait que je ne sais pas faire la cuisine.
Mais vous m'aviez dit tout à l'heure que votre père a travaillé comme domestique chez les prêtres.
Oui, mais en fait, il n'était pas cuisinier. Il était ce qu'on appelait boimoké. Donc, en fait, c'est un aide cuisinier. Mais il n'a pas fait longtemps.
Radio Capi, Grand Témoin.
Et Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Florentin Mokonda Bonza. Il est sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens. Alors, en 1974, c'est l'année de l'obtention de votre licence en sciences économiques. Et vous êtes retenu comme assistant à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Racontez-nous comment était votre premier contact avec les étudiants.
Le premier contact, je crois, ça doit être... j'étais nommé début décembre 1974 et puis dès janvier 1975, j'ai commencé directement les travaux pratiques. Mais pour moi, c'était une répétition de quelque chose que j'avais déjà accompli dans le passé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la rébellion dans la province orientale, c'était en 64. De 64 en 66, on était dans la forêt. Et dans une partie de l'année 66, je me suis retrouvé à Kisangani au collège Sacré-Cœur, où j'ai pu terminer ma seconde économique, c'est-à-dire l'avant-dernière année des humanités. Je pars en vacances en 66 à Isiro, police à l'époque. Je suis surpris par la mutinerie katangaise et mon oncle paternel chez qui je me trouvais n'ayant pas été payé. Je ne peux pas rentrer à Kisangani pour terminer mes humanités et me voilà enseignant. Donc j'ai enseigné pendant une année à l'Athénée d'Isiro. Première expérience. En 68, j'ai mon diplôme à Bouta. Et je suis obligé d'enseigner à Bouta pendant une année, entre 68 et 69. Deuxième expérience. Et en 69, je viens à Kinshasa pour l'université. Je ne suis pas inscrit. Je vais rejoindre mon oncle paternel qui s'est trouvé être major de l'armée à Mbujimayi. Et là, j'enseigne à l'Athénée de Mbujimayi pendant 6 mois. Donc ça fait que en janvier 75, quand je suis assistant et que je prends le contact avec les étudiants, je n'ai plus peur de parler en public. J'ai déjà eu l'occasion de parler aux élèves.
Mais les élèves, ils sont différents des étudiants. Ils n'ont pas la même mentalité.
Peu importe, mais déjà, je n'avais plus la peur, je n'avais plus le craque. Et j'étais donc un peu, quand même, par rapport à mes collègues, j'étais dans une position bien meilleure. Mais comme tu l'as dit, quand à l'université c'est différent, les étudiants dérangent beaucoup plus. Mais ce que je faisais chaque fois que les étudiants dérangeaient ou faisaient de bruit ou criaient, je me taisais. Je ne disais rien, je les observais pendant une minute et je leur posais la question de savoir s'ils estimaient que maintenant je pouvais continuer. Et généralement, ils disaient « Oui, monsieur l'assistant ». Et j'avançais. Et j'ai continué avec ça jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que j'entre dans un auditoire, si les étudiants font de bruit, je m'étais, je les observe pendant quelques temps. Et automatiquement, tous se regardent, se taisent. Et je leur pose la question de savoir s'ils estimaient que maintenant je pouvais commencer les cours. Et ils disent « Oui, vous pouvez commencer les cours ».
Et s'ils répondaient par « Non ».
Ah, ils peuvent pas répondre par non. Je crois que cette façon de le regarder, sans réagir, sans dire quoi que ce soit, je crois que finalement, ils se disent non, c'est sérieux. Il faut passer aux choses sérieuses.
En juillet 1983, vous êtes proclamé docteur en sciences économiques à l'université de Kinshasa. Votre travail a porté sur quoi, honorable?
Eh bien, mon travail, c'était une réflexion sur le développement rural au Congo, parce que en tant qu'assistant, je me suis spécialisé en économie rurale. Je m'étais dit que j'étais originaire d'une province agro-pastorale, la province orientale. Mm-hmm. Et donc, si je pouvais faire quelque chose pour ma province, c'était de mieux comprendre l'économie rurale et de voir dans quelle mesure je pouvais donc aider par mes réflexions, par mes recommandations, à améliorer l'économie de la population en milieu rural, essayer surtout d'apporter ma contribution à la transformation du monde rural. Et donc, ma réflexion pour la thèse a porté sur le développement rural, et l'intitulé exact, c'était « Structure socio-économique et développement rural au Zaïre ». Donc, c'était de voir quel est le lien, la relation que l'on pouvait établir entre les structures économiques et les structures sociales d'un pays et le développement rural. Dans les conditions qui étaient celles du Zaïre de l'époque, on était dans un parti unique, où le parti avait pratiquement la prépondérance sur l'État. Est-ce que c'était possible de pouvoir promouvoir le développement rural en milieu, le développement en milieu rural? Et c'était donc ma préoccupation et qui avait fait l'objet de ma thèse de doctorat.
En 1985, vous êtes nommé professeur associé. Qu'est-ce qu'on entend par professeur associé?
Ben, c'est le premier grade après que l'on devienne docteur en sciences économiques, docteur dans n'importe quelle autre discipline. Quand on commence alors la carrière enseignante, après avoir été assistant et chef de travaux. Le premier grade, c'est celui de professeur associé. Et puis après, on devient professeur et enfin, on devient professeur ordinaire.
Parallèlement à votre carrière scientifique et académique, honorable Florentin, vous avez occupé plusieurs fonctions pendant le régime Mobutu. C'était par rapport à votre aptitude ou à votre intelligence?
J'étais conseiller du Premier ministre. Ça, c'est à partir de l'année 79. Le Premier ministre, M. Bobolico, avait besoin d'un spécialiste en économie rurale. Et il a cherché et on lui avait proposé mon nom. Et il se faisait qu'en ce moment, je me trouvais justement dans la province orientale en train de mener des enquêtes pour ma thèse de doctorat. Et voilà comment il m'a pris comme conseiller. Mais plus tard, quand vous dites que j'ai exercé un certain nombre de fonctions, la première fonction politique que j'ai exercée, c'était celle de secrétaire d'État à l'agriculture et au développement rural. Ça veut dire vice-ministre aujourd'hui de l'agriculture et au développement rural, avant d'être nommé en 85, donc ministre du portefeuille et puis après l'enseignement supérieur, l'économie nationale et le développement rural. Encore une fois, l'enseignement supérieur et la recherche, et puis l'économie nationale.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Honorable Florentin, de la vie économique, vous passez à la politique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique?
Bon, je crois que je suis allé un peu dans la politique sans l'avoir voulu, parce que au moment où je défends ma thèse de doctorat, j'étais directeur général d'une entreprise privée. Et cette entreprise privée s'occupait de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la scierie, de la pêche, de l'exportation. Et moi, j'étais donc responsable de cette entreprise et je me trouvais en voyage aux États-Unis quand j'ai été surpris par ma nomination. Je rentre, je prête serment et puis je me mets au travail et comme mes premières fonctions c'était au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, un ministère que je connaissais assez bien pour avoir été conseiller et pour être quand même l'un des spécialistes dans ces domaines, pour avoir fait une thèse dans ces domaines et j'ai aimé, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Bon, malheureusement, comme on est en politique, tout ne dépend pas que de soi. Et quelques temps plus tard, je me suis retrouvé dans d'autres ministères. Bon, et comment dirais-je, l'appétit venant toujours un peu en mangeant. Et un peu plus tard, je me suis aussi retrouvé, sans l'avoir voulu, directeur du cabinet du président de la République. Le président de la République décidera de me nommer directeur de son cabinet. Il avait besoin d'un économiste. Il m'a choisi parmi tant d'autres et voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour me mettre au service de mon pays.
Et vous avez pris goût à la politique et c'était parti?
Bon, non seulement que j'ai pris goût, mais je me suis rendu compte quand j'étais d'abord ministre ou commissaire d'État, comme on avait l'habitude de le dire, et quand j'étais directeur du cabinet du président. Pendant 3 ans et demi, j'étais à ses côtés, j'ai vu les décisions qu'il prenait, je l'ai accompagné partout et ainsi de suite. Je n'étais pas toujours d'accord avec tout ce qui se faisait et je me suis dit, mais je peux faire mieux. Si jamais l'occasion m'était fournie, je ferais mieux. Et voilà pourquoi plus tard, quand j'ai pris ma liberté, j'ai décidé de créer un parti avec 2 amis et progressivement, nous sommes arrivés à la Convention des démocrates chrétiens avec l'ambition de mieux faire par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai observé dans le passé.
Vous avez été même candidat à la présidence de la République, aux présidentielles et législatives de 2006, mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Évidemment, candidat malheureux, mais ça ne veut absolument rien dire, parce que vous savez, les élections, bon, ceux qui sont élus, il faut les respecter, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont les meilleurs, mais c'est parce que les circonstances, à un certain moment, la population fait des choix. Il y a également d'autres forces exogènes qui jouent, mais je me suis dit que j'attendrai une autre opportunité.
Mais en postulant, est-ce que vous étiez sûr de passer ou c'était tentons notre chance, voyons voir.
Bon, je voulais dire que peut-être que la population congolaise peut se dire un homme comme celui-là qui a une expérience, qui sait exactement ce qu'il peut faire, étant donné qu'il a travaillé dans le passé, qu'il a commis des erreurs et qu'aujourd'hui il a l'ambition de faire quelque chose, nous pouvons peut-être nous confier à lui parce que nous pensons que lui l'a déjà commis des erreurs et qu'il fera mieux prochainement. Mais la population n'a pas décidé de cette manière-là, elle est souveraine et j'estime que prochainement elle comprendra. Et de toute façon, elle voit comment le pays est aujourd'hui dirigé, elle fera le bon choix.
Malgré l'échec à la présidentielle, vous ne vous êtes pas découragé, vous êtes quand même allé jusqu'aux législatives.
Non, je ne pouvais pas du tout me décourager parce que nous ne nous sommes pas battus à armes égales. Certains avaient tout le moyen de l'État. Et moi, je n'avais que le moyen de mon parti. Donc, nous n'étions pas du tout sur le même pied d'égalité. Je ne pouvais pas me décourager. Alors, je me suis dit que ce que je peux faire, c'est tenter de me faire élire au Sénat. Je n'ai jamais pensé dans ma vie un jour que je pouvais devenir député national. Mais je me suis toujours dit, si je dois aller au Parlement, ça doit être au Sénat. Et je me suis fait élire au Sénat.
Et pourquoi pas à l'Assemblée nationale?
Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais aimé l'Assemblée nationale depuis longtemps. Même quand j'étais ministre, je voyais l'Assemblée nationale. Mais quand j'ai lu les archives du passé, quand j'ai vu ce qui se passe dans d'autres pays, je me suis dit, pour des gens qui ont une certaine expérience, le Sénat est un cadre vraiment approprié plutôt que l'Assemblée nationale, où très souvent on retrouve des jeunes qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qui sont fougueux et qui parfois prennent des décisions, mais sans nécessairement peser le pour ou le contre, tandis que le Sénat, c'était un endroit où je pouvais vraiment apporter ma contribution.
Nous allons souffler un peu, honorable Florentin. Vous aimez la musique?
Ah oui, je suis un bon mélomane.
Quel genre de musique, la rumba?
La musique classique et puis les vieilles chansons de Cabasele, de Rochero, de Nico, de Franco, tout ça j'aime bien.
Une chanson, un titre d'une chanson qui vous vient à l'esprit?
Bah, Fifi, par exemple, ou Independent Cha-Cha, ou encore de, comment dirais-je, de Lucie Yenga, ou plus près de nous, par exemple, Zaiko au Japon, ou...
Mais laquelle vous préférez qu'on vous dédie dans cette émission?
Eh bien, alors, de Kabasele, Africa Mokili Mobimba, par exemple.
Là, la chanson Africa Mokili Mobimba de Kabasele Tchamala, alias Kali Jeff, interprétée par Tchala Mwana.
Radio Kapi, grand témoin.
Florentin Mokonda Bonza, sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens, est aujourd'hui l'invité des grands témoins. Nous allons parler actualité, honorable Mokonda. Le gouvernement congolais refuse l'envoi d'un contingent originaire d'un pays parmi les 3000 casques bleus en renfort à la MONUC. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas indiqué le nom de ce pays, a annoncé que la RDC a adressé une correspondance à ce sujet au secrétaire général de l'ONU. Alexis Thambwe Mwamba donne les raisons de ces refus au micro de Pierrot et la Mégie.
le gouvernement a décidé de donner son avis sur les troupes qui viennent dans notre pays. Et les faits sont extrêmement graves. Nous venions d'alimenter Roumangabo et les unités de ces pays-là ont laissé la libre voie pour que ce que nous venions de fournir et qui a coûté extrêmement cher soit pris par les troupes de M. Nkunda. Nous n'acceptons pas que l'on fasse chez nous n'importe quoi. Et désormais, nous agirons ainsi vis-à-vis des organismes comme la MONUC. Nous agirons ainsi vis-à-vis des individus. Nous agirons ainsi vis-à-vis des ministres des pays étrangers qui nous insultent. C'est-à-dire que nous prendrons la décision, par exemple, que tel ministre ne peut pas venir ici.
Votre réaction, honorable Florentin, est-ce que le gouvernement d'un pays peut refuser l'envoi d'un contingent originaire d'un pays quelconque pour renforcer la force onusienne dans un pays?
Oui, je crois que ça rentre dans le cadre du droit international. Le Congo a accepté que un certain nombre de pays puissent envoyer leurs troupes ici dans le cadre de la MONUC. Si aujourd'hui le Congo estime que tel pays, ces ressortissants qui ont travaillé dans notre pays dans le cadre de la MONUC ont commis un certain nombre de fautes que nous considérons comme graves, qui ont porté atteinte à notre souveraineté, à l'intégrité de notre territoire, je crois que c'est le droit le plus strict du gouvernement. Il faut pas oublier non plus que en 1962-63, ce sont justement les troupes indiennes dont on ne veut pas aujourd'hui, qui ont aidé le Congo à pouvoir mettre fin à la sécession katangaise. C'était les Gurkhas, pour l'histoire, qui ont défait la sécession katangaise qui était soutenue par le Royaume de Belgique.
L'actualité, c'est aussi ce rapport de Human Rights Watch qui accuse le gouvernement congolais d'une violation massive des droits de l'homme. Mais le gouvernement, de son côté, rejette ce rapport. Vous l'avez lu, honorable?
Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai suivi des extraits de ces rapports à la radio, notamment sur RFI. Bon, j'ai entendu également la réaction du gouvernement. Bon, je crois que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger la déclaration ou la réaction du gouvernement. Vous savez, bon, nous les hommes, nous servons différents pouvoirs. Tantôt nous sommes à l'opposition, nous avons un discours, et quand nous sommes au pouvoir, nous avons un autre discours. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a quand même beaucoup d'arrestations des opposants dans le pays. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de gens qui sont tués, dont on ne parle pas beaucoup, et ça, ce n'est pas nouveau. Quand l'AFDEL est arrivé ici, moi, j'étais à Kinshasa, je ne suis pas allé en exil. Je sais qu'on a tué beaucoup de gens, des ressortissants de certaines provinces, et aujourd'hui, on continue à arrêter dans les camps militaires, et ainsi de suite. On estime que telle ou telle personne serait proche de tel ou tel opposant politique, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas nier. Les arrestations, il y en a. Les assassinats, il y en a aussi.
Nous sommes presque à la fin de notre émission, honorable Florentin Mukunda Bonza. Si quelqu'un, par hasard, ça peut être un frère, un cousin qui vit à l'étranger ou à l'extérieur de la RDC, vous posez la question de savoir comment se porte la RDC. Que lui répondriez-vous?
Mais la RDC se porte très mal. La RDC se porte très mal du point de vue politique. Le pays est en guerre, l'espace politique s'est réduit de plus en plus pour du point de vue de la démocratie. On a le président de la République qui vient s'installer au Parlement, alors qu'il ne peut pas s'installer au Parlement, la Constitution le lui interdit. Le président de la République...
Mais je m'excuse, honorable, mais il s'installe provisoirement, il ne va pas...
Il n'a pas à s'installer provisoirement, il viole la Constitution. Il n'a pas à s'installer provisoirement, il ne doit pas s'installer du tout, parce qu'il y a séparation de pouvoir, et c'est ce qui a été prévu dans la constitution qu'il a promulguée lui-même. Les pays se portent mal parce qu'il y a la guerre à l'est, parce que les LRA ougandais occupent une partie de notre territoire dans la province orientale, parce qu'il y a des éleveurs mbororo qui occupent une partie de la province orientale, parce que du point de vue économique, les gens vivent très très mal, les prix augmentent sur le marché. Au point de vue social, vous savez vous-même ce qui se passe. Quand il pleut à Kinshasa, vous voyez les dégâts. Donc le pays se porte mal. Donc ça veut dire que, et les dirigeants congolais, et nous tous, et tout le peuple congolais, nous devons prendre conscience de la situation de notre pays. Nous ne devons pas continuer à compter sur l'extérieur, sur la communauté internationale. Nous ne faisons que pleurnicher à tout moment. Nous devons prendre nos responsabilités entre les mains pour sauver notre pays et non compter sur la MONUC et non continuer à compter sur la communauté internationale.
Le pays se porte mal, c'est sur ces propos que nous mettons fin à cette émission. Grand témoin recevé pour vous, Florentin Mukunda Bonza, il est sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens. Merci à Héritier Sidia Kala qui était à la technique, Kéline Kouté à la présentation. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions des grands témoins. Vous pouvez aussi nous écrire. Merci à tous ceux qui nous suivent dans la province orientale, plus précisément à Bouta. Bonne suite du programme sur Radio Okapi.